10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes dans les informés, vous le savez, de 10h à 11h. Eh bien, c'est parti pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Ce matin, nous allons nous intéresser à plusieurs choses au sommaire de cette émission. Alors, tout d'abord, nous allons accueillir Badr qui représente l'association Pchifa. Alors, justement, qui organise un événement autour de la situation à Gaza, avec notamment une action humanitaire. Nous en parlons puisque ça s'intitule « Notre cœur reste à Gaza ». Ils ont décidé de créer un débat et de créer notamment un événement autour de ce sujet qui préoccupe d'ailleurs, au-delà de la France, l'Hexagone, tout le monde. Ensuite, après, les débattants influenceurs seront avec nous pour parler des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité. Nous reviendrons sur le déplacement d'Emmanuel Macron qui annonce plus de 82 interpellations, mais pas que. Alors, Emmanuel Macron à Marseille, certains parlent de coup de com', considèrent que bon, son passage sert quand même à quelque chose. Bon, alors on va en parler et on parlera de cette situation. Louis Boyard qui continue de faire parler de lui. Alors, je ne sais pas, il a décidé, c'est la semaine Louis Boyard, parce que depuis les émeutes à la Courneuve, eh bien, Louis Boyard ne cesse évidemment de provoquer débat sur polémique sur débat. Bref, nous reviendrons sur ces différentes déclarations, à la fois sur ce qui s'est déroulé, eh bien, à la Courneuve, dans le 93, mais également aussi, il tape du poing lorsqu'il considère que les médias organisent un débat entre blancs à parler de racisme. Louis Boyard, il est chaud, hein, clochette, hein. L'Ukraine, il faut être prêt à défendre tout simplement. Eh bien, ça, c'est des propos à défendre la République, pardon. Ça, c'est les propos d'Emmanuel Macron. Alors, avec cette métamorphose, notamment aussi d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes? Quelle est cette grille de lecture qu'il faut avoir? Évidemment, l'objectif n'étant pas d'angoisser la France, mais d'angoisser qui au juste? Nous en parlerons. Le Quoi de Neuf avec le docteur et le professeur Majid Soussine à 10h47, 48, 49, quelque chose comme ça, tout à l'heure. Et il reviendra sur les sujets d'actualité. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, sans oublier le 01 53 48 3000. Vous nous appelez, évidemment, et on vous accueille chaleureusement.
Les informés. L'interview.
J'avais pas fini ma phrase, mais c'est pas grave. Chaleureusement, au standard, au 01 53 48 3000. Mais le réalisateur, il est chaud ce matin. T'as le droit à une clochette, tiens. Allez, t'as le droit à une clochette. Fais-toi une clochette à toi-même. Je veux que tu te fasses. Voilà, bravo. Allez, l'interview, c'est parti. L'interview, c'est avec Badr. Badr, bonjour Badr.
Badr, oui, bonjour tout.
Bonjour.
Bonjour au public de Beurre FM.
Bonjour à vous. Vous êtes le représentant de l'association Pchifa. Justement, cette association, vous pouvez nous rappeler un petit peu l'objectif de Pchifa, aujourd'hui, en quoi consiste cette association que vous représentez, Badr?
Oui, c'est une association française qui intervient aujourd'hui essentiellement en Tunisie à l'appel des soignants. Donc on a été trois personnes dont un soignant qui l'a créé parce qu'on a eu un peu avant le Covid un appel à l'aide de soignants qui travaillaient auprès des enfants atteints de cancer. On sait que les enfants atteints de cancer peuvent être guéris simplement, mais on n'a pas des moyens dédiés en Tunisie pour cette catégorie. Donc on a organisé des collectes et on a apporté directement cette aide aux soignants. Et on a eu depuis le début cette originalité de travailler directement avec les hôpitaux sans passer par beaucoup d'intermédiaires. Donc, avec le Covid, notre activité s'est accentuée. Et là, récemment, avec bien sûr la guerre en cours contre Gaza, on a dû intervenir.
Vous avez dû intervenir parce que, rappelons-le quand même à nos auditeurs, votre association est une action humanitaire de soignants, hein, précisons-le. Est-ce que vous avez eu affaire à des équipes qui se sont déplacées sur place à Gaza, mon cher Badr?
Nous, on travaille directement avec les soignants. C'est-à-dire qu'on travaille en France sur la collecte, sur faire comprendre ce que les gens au niveau local font. Et après, on apporte directement, transfère directement les fonds et on achète le matériel au niveau local, les consommables, etc. au niveau local. On a travaillé donc avec les hôpitaux El Aouda, qui ont 2 hôpitaux et 5 dispensaires à Gaza, dans le cadre d'une campagne avec d'autres associations, notamment la FTCR, et Solidaires et des syndicats. Ça, sur la fin de cette année. Mais aujourd'hui, la situation est dramatique. Gaza est complètement bouclé, fermé par l'occupation. Il est impossible quasiment ou très difficilement de faire entrer quoi que ce soit. Donc l'aide même qu'on a réussi à collecter a du mal à entrer. Aujourd'hui, donc, on organise un événement avec Palmed, qui sont l'organisation des médecins palestiniens, qui sont sur place, avec Médecins du Monde, qui sont sur place, et Raphaël Pitti, qui revient de Gaza, pour discuter, pour comprendre la situation, sa gravité, en quoi elle est exceptionnelle, et pourquoi aujourd'hui, nous, en tant qu'association humanitaire, on ne peut pas simplement collecter de l'argent, mais on se doit d'informer le grand public. Nous sommes dans une situation vraiment génocidaire.
Alors justement, Bader, pour informer le public, Notre Cœur est à Gaza, c'est un événement que vous organisez donc avec Bchifa, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'association qui est partenaire avec vous. Une table ronde avec, vous l'avez rappelé, le docteur Raphaël Pitti et d'autres personnalités. Alors ça se passe quand et où précisément, me semble-t-il, ça se passe à Montreuil, hein ?
Ça se passe à Montreuil, c'est ce soir, avec un iftar palestinien. Alors, c'est sur réservation. Aujourd'hui, on est virtuellement complet. Si vous venez à 18h30 au 81 rue Bichelet, on pourra voir si, effectivement, on essaiera de faire entrer un maximum de monde. Mais effectivement, on a eu un grand nombre d'inscriptions. Mais l'important pour nous aujourd'hui, c'est que cette cause soit entendue. Pas simplement d'aider la Palestine comme une cause humanitaire, mais de comprendre que la situation exige un niveau d'interpellation des autorités publiques en France qui est encore plus élevée pour que la situation humanitaire puisse s'améliorer, parce qu'on est vraiment au bord de la catastrophe, d'une famine, d'une situation où même les humanitaires ne peuvent plus travailler.
C'est ce que vous allez dire durant cette table ronde avec le docteur Iji, qui est le président de Palmed France, Elena Ranchal, la directrice des opérations internationales de Médecins du Monde. La thématique va tourner essentiellement autour de la situation à Gaza, Bader.
Voilà, donc les intervenants vont nous expliquer la situation très concrètement, parce qu'ils en reviennent ou ils travaillent directement avec les gens qui y sont. Ce n'est pas théorique, ils vont vous parler de choses qu'ils ont vécues ou qu'ils vivent au quotidien. Et ensuite, ils vont vous proposer des modalités d'action, comment agir. En parallèle, on va mettre en place un live streaming sur le Facebook de l'association Bchifa, B-C-H-I-F-A. Vous pourrez le suivre sur l'Instagram de Bchifa.org, B-C-H-I-F-A, le tiré du bas, O-R-G. Vous trouverez également notre Instagram et sur Twitter d'Urgence Palestine, puisque c'est aussi un événement qui est organisé en collaboration avec Urgence Palestine.
Alors ça se passe ce soir à partir de 18h30, donc 80 rue Michelet, sur la ville de Montreuil. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs, mon cher Bader, vous qui représentez l'association Bchifa ?
Aujourd'hui, il faut effectivement un soutien total à tous les humanitaires qui aillent au-delà des dons pour interpeller les autorités sur la nécessité d'intervenir pour mettre fin à un génocide.
Merci Bader d'être intervenu et bon débat pour cette table ronde de ce soir qui se déroule sur la ville de Montreuil. Merci Bader.
Merci. Bon ramadan à tous.
Merci et bon courage pour ce soir. C'est parti pour le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face.
Quatre débatteurs, des élus, mais également aussi des entrepreneurs. Farid Haïd, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment
bonjour
ça va?
Bonjour à tout le monde, ça va bien et vous?
Plusieurs casquettes, hein? Non mais c'est vrai, pourquoi vous rigolez? J'étais nu, vous êtes député suppléant sur la ville de Villepin, donc ça se passe bien.
Pierre Vitte, pardon.
Vous avez dit, c'est un vrai problème. Hein.
C'est un vrai souci. On va faire un petit briefing.
Je sais pas pourquoi je le vois, je vous jure, je le vois.
C'est peut-être prémonitoire.
Il a peut-être raison, je crois.
Ouais, je connais bien Villepin.
Mais peut-être qu'il va se passer là-bas, moi je pense que vous allez finir là-bas, je pense, à mon avis.
Du tout, oui. À la mairie de Villepin, j'espère.
Oui, maire
de Villepin. Oui, je pense. Mais je préfère être soit le maire de Pierrefitte ou soit le maire de la nouvelle ville, comme vous savez qu'il y a une proposition de faire une fusion entre la ville de Saint-Denis et de Pierrefitte, ouais, dont je suis bien évidemment hostile, mais qui est en bonne marche là pour que ça soit réalisé, qui serait la deuxième ville après Paris en nombre d'habitants. 150 000 habitants.
Quoi qu'il arrive, on vous le souhaite, Pierrefitte, n'est-ce pas,
hein? Après Paris en Ile-de-France.
Exactement, ouais, tout à fait.
En tout cas, bienvenue avec nous. Merci. Ah oui, vous y avez touché un mot concernant ce sujet social. J'ai vu votre tweet là passer, vous me l'avez envoyé effectivement. Parlez-en justement.
Par rapport à
ce bloc, vous m'avez dit, oui, un plein mouvement social sur un plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis.
Oui, on organise un rassemblement.
Je crois qu'il y a une urgence là, il me semble.
Voilà, tout à fait. Vous avez vu, depuis plusieurs jours, les enseignants sont en grève pour demander des moyens pour la Seine-Saint-Denis. Et les enseignants, les parents d'élèves, demandent 350 millions d'euros pour la Seine-Saint-Denis pour C'est pas plus, hein. C'est juste pour être en équilibre par rapport au pays. Alors quand on voit que le gouvernement est prêt à mettre 2 milliards pour des uniformes qui peut-être ne serviront à rien, on se dit bah peut-être 350 millions, surtout que comme on va s'exprimer tout à l'heure sur bah, l'avenue de Macron à Marseille où là il donne des moyens etc. Et ben bah, là il y a vraiment urgence et là et c'est pour ça qu'on organise un rassemblement le jeudi 21 mars à 17h30 devant l'hôtel de ville de Pierrefitte pour dire que il nous faut des moyens pour que nos enfants puissent réussir à l'école parce qu'on souhaite que nos enfants réussissent à l'école dans les mêmes conditions que partout dans le pays.
Vous avez bien raison.
Et Augustin, vous avez quantifié ça à 350 millions.
Ouais. Exactement, tout à fait.
Augustin Vague, bonjour.
Bonjour.
Entrepreneur.
Ravi d'être là.
Ça va ?
Très très bien.
Rudy Casi, l'élu de Saint-Germain-les-Arpajons. Comment ça va, l'élu ?
Ça va très bien, il vous
a dit. Tout va bien.
Ça va. Et vous, ça bah va?
Écoutez-moi, ça va très bien. On s'est croisé au débat, une table ronde, donc c'est bien.
Ouais,
ça
se passe
bien.
Sur,
organisé par l'hôtel de ville,
etc.
Absolument.
Ouais, francophonie, pont diasporique.
Autour des sujets de la diaspora.
Ouais,
très bon
super.
Sujet, très ouais. Bon sujet, absolument.
Très haut niveau.
Le retour de Karim Alouache. Comment ça va, l'élu de Bondy?
Bonjour.
Ça va
très
l'élu
bien.
De Bondy?
Ça va bien, ça va bien.
Vous êtes arrivé en casquette ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez au golf après?
Le printemps.
Le printemps.
Tu vas au golf?
Ouais, en plus, c'est vrai.
Non, mais pour lui, c'est la détente, la radio. Les affaires sérieuses, oh, c'est quand il prend l'avion, il est costumé.
Je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue là sur l'éducation nationale.
Ouais.
Pour moi, c'est le sujet éducatif n'est pas qu'une question d'argent. Et il y a un très bon exemple dans les banlieues, c'est l'ANRU. On a mis des milliards dans les cités. Et les cités n'ont jamais cessé de se dégrader. C'est-à-dire que les cités que j'ai connues, dans lesquelles j'ai grandi il y a 40 ans, étaient bien mieux, et il n'y avait pas l'ANRU, que celle d'aujourd'hui. Donc c'est pas qu'un problème.
Parce qu'on a investi sur le bâti, non pas sur l'humain.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire qu'on a mis des milliards.
En fait, c'est pas une question de milliards. C'est sur les bâtis.
Exactement.
Je pense que c'est sur l'humain là qu'on demande.
Tout à fait.
Déjà, ça faisait 20 ans qu'on en parle de l'humain.
Parce que le bilan, c'est 48 milliards qu'on a donné dans la banlieue.
C'est vrai que c'est pas une question de moyens, c'est une question de répartition des moyens.
C'est exactement ce que je voulais souligner. C'est pour ça que c'est pas une question d'argent. À l'éducation,
c'est aussi une question d'argent.
En cette
répartition.
Qu'on commence déjà. Par mettre des profs, des enseignants. Et ça, c'est une obligation d'éduquer. C'est pas une question de donner de l'argent à la Seine-Saint-Denis. C'est qu'il doit y avoir des enseignants présents, remplacés quand ils sont pas là, et des enseignants de qualité.
Mais ça, alors, c'est pas la nationale, hein. Pas qu'en Seine-Saint-Denis.
Alors, justement, parlons-en.
C'est un problème national, c'est un problème aussi.
Je disais en fait que c'est une réforme sur l'éducation nationale qu'il faudrait faire, et notamment sur les disparités sociales qui existent dans certains espaces où effectivement il y a des professeurs de pas forcément de meilleure qualité, mais mieux expérimentés. Donc forcément,
mais si, il faut le dire,
par l'expérience,
faut,
on est forcément
pas être gêné de le dire.
De meilleure qualité.
Non, mais il faut pas essayer de contracter.
Parce que la réalité, c'est que dans certaines villes, on va mettre des enseignants recrutés sur un entretien qu'ont jamais enseigné de leur vie, qu'ont aucune méthode pédagogique.
Et ça, c'est des contractuels.
Voire même qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. D'accord ? Et on se dira, eux, en Seine-Saint-Denis, on leur met, de toute façon, ils diront rien, ils vont même pas voter, puis on s'en fiche. Et dans d'autres secteurs, comme certains quartiers de Paris, jamais ça n'arrivera.
Déjà,
jamais.
Incitons les bons enseignants, soi-disant, d'aller en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Incitons-les financièrement, facilitons leur installation et tout ça.
Ouais, c'est pour ça qu'il faut remettre à plat le système éducatif.
Vous savez quoi,
parce que,
justement, ça va. On reste dans le sujet, on va aller à Marseille. Où il y a eu un déplacement surprise, un peu surprise, d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui annonce des places nettes XXL dans une dizaine d'autres villes avec avec le narcotrafic. On va en parler juste après 82 interpellations, lundi, dans l'opération d'envergure démarrée dans la cité phocéenne.
On est monté à 98 là, ça augmente.
Ah oui, tous les jours.
Maintenant on va faire un comptage. Maintenant, ils vont faire un comptage.
Alors, je sais pas, mais
et
bon,
le bilan est maigre. Hein,
c'est 19. On parle de 82 plus 19. On fait une pause et on se retrouve. Il est peut-être maigre, mais on va en parler justement. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et 10h21 avec Farid Aïd, avec Augustin Vargue, Rudy Kazi. Et enfin, Karim Aloche. On parlait, vous savez, des écoles privées, des écoles publiques. Mais on en parlera, c'est un sujet récurrent. Donc, allez en direction Marseille. Marseille, où vous savez quoi? Je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait où un jeune a interpellé Emmanuel Macron, le chef de l'État. Mais surtout, ce qu'on veut s'intéresser à, est-ce qu'il s'agit là d'un coup de com pour le chef de l'État? On parle de plusieurs interpellations, 82 et 19 de l'autre côté, dans le cadre, évidemment, du narcotrafic à Marseille. Et puis, dans d'autres villes, d'autres opérations sont prévues et qui sont aussi à mener. On va écouter cet extrait qui est pas mal. C'est un échange avec un jeune de Marseillais et le chef de l'État. Écoutez, tendez l'oreille.
Ben venez, venez. Eh ben vous allez me le dire, mais d'abord là on parle de lui et de son avenir professionnel. Non, ne parlez pas comme ça. Ils sont là pour quoi? Pour vous protéger?
C'est pas de la protection ça.
Quoi donc?
Vous envoyez des bombes à l'écrémogène à 4h30 quand les enfants sortent de l'école primaire et qu'il y a des enfants dans toutes les dents. Dans le quartier.
Le quartier,
dans tout le quartier, parce qu'il y a deux écoles, col d'en haut, col d'en bas. Donc à un moment donné, tous les enfants sont au milieu du quartier.
Oui.
Les CRS interviennent, ils veulent faire du lavage, du nettoyage.
Juste, c'était quand?
Non, c'est souvent. Ils envoient des bombes lacrymogènes.
Mais madame,
vous
recevrez?
Qui est des enfants? Qui est des personnes âgées? Qui est des mineurs?
Lui, il ne sort pas de l'école à 4h30. Hein.
Pas lui, mais je ne parle pas de lui. Mais il est témoin.
On ne va pas tirer les cartes entre nous non plus.
On a tous la même situation.
Regardez, madame,
c'est inadmissible.
Juste, on va faire des choses dans l'ordre. Un, les policiers, les gendarmes, ils sont là pour rétablir l'ordre. Si tout allait bien dans un monde formidable, il n'y aurait pas de policiers et de gendarmes, on serait tous très heureux et eux pourraient se reposer. Ils pourraient se reposer, ils ne seraient pas blessés par les gens qui les attaquent.
Donc
c'est ce qu'ils ont fait.
Est-ce que tous les jeunes à Castellane, les 6 000 habitants, sont
non, pas du tout. Mais non. Simplement, il y en a et l'enfer pourrait pas. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, ce que vous dites, dont je n'ai pas connaissance, partie d'école, ça, le préfet de police va regarder avec vous, il va prendre vos coordonnées tout de suite pour que ça ne marche pas. Parce que ça, c'est inadmissible. Pas à 4h30, quand on sort de l'école, vous avez totalement raison. Mais ça n'enlève pas leur action. Il y a les jeunes là, qui sont là.
Alors, on voit bien cet échange tendu avec le chef de l'État qui s'est rendu de façon urgente, un peu imprévisible, sur la ville de Marseille. On voit bien que les jeunes, il y a une tension entre la police et les jeunes marseillais, Farid Aïd. Et là, notamment, il dit calmez vos petits SCRS, et le président de la République lui rétorque, ben non, mais attendez, il y a l'autorité d'un côté, et puis vous aussi, il faut... Enfin, on voit bien dans l'échange qu'il essaye de faire comprendre. Farid Aïd,
bien sûr.
Qu'est-ce que ça vous fait réagir?
Bien sûr, ça me fait réagir dans le sens où bien sûr qu'il faut de l'autorité, bien sûr qu'il faut de la police dans les quartiers. Mais il faut pas faire que des coups de com. Il faut travailler, comme on le dit depuis des années, à une police de proximité, à une police qui va apaiser aussi. Parce que on voit aussi que dans les quartiers, il n'y a pas que les jeunes qui ont peur de la police. Même les familles, maintenant, ont peur de la police. Parce qu'ils ont peur de leur réaction.
Mais là, quand on écoute cet échange, on dirait qu'il y a un divorce entre la police et les jeunes.
Ben oui, mais ça, on le dit depuis longtemps, malheureusement, et on n'est pas entendu. On n'est pas entendu. Et c'est pas que, par exemple, à Marseille. C'est un peu partout où, à un moment donné, il y a, maintenant, on se regarde un peu de loin, une défiance. Et ça, c'est pas normal parce que ce sont des agents des services publics et ils sont là pour nous protéger. Et comme ils sont là pour nous protéger, eh ben, il faut faire en sorte que ça se passe mieux. Maintenant, bien évidemment, c'est aussi une des conséquences de, je le rappelle toujours, de Nicolas Sarkozy quand il a dit oui, les policiers sont pas là pour jouer au ballon. C'était pas le cas avant. Il faut une police de proximité, une police qui rassure, une police qui est présente, mais pas une police comme on le fait à Marseille hier. Là, on fait tout un pataquès, il vient, il y a les CRS, on va laisser les CRS pendant 3 semaines dans la Castellane, et après 3 semaines, les habitants le disent, après 3 semaines, ils vont partir, et après, il va voir quoi? Il n'y aura plus rien. C'est pour moi un coup de com', malheureusement.
C'est malheureusement un coup de com', parce qu'il n'y a eu aucune annonce, déjà. Est-ce qu'on a entendu une annonce? Il y en a qui réclament que le commissariat soit réouvert. Il n'y a pas de commissariat réouvert. Je pense qu'il a fait plus de selfies hier que de prises de kilos de cannabis et de cocaïne. Donc je pense que moi j'ai l'impression qu'il était en séduction, quoi, donc en communication.
Il est venu redorer le blason de la ville de Marseille en quelques mois des JO.
Après le divorce entre la police et les jeunes, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dire les jeunes c'est pas non plus un tronc commun. C'est, je pense que ça va être tout le monde, je pense que ça va être toutes les strates de la population. Je pense qu'il faut effectivement faire des états généraux du dialogue entre la police aussi pour expliquer leur rôle et les missions locales et les habitants des
quartier.
Rudy Casier, enfin Karim Alouache, dites-moi, justement, parce qu'après je voudrais qu'on avance sur ce même sujet.
Bah évidemment, c'est un coup de communication. Là, on prépare les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques temps, faut envoyer, et puis aussi les élections européennes, faut envoyer effectivement le message comme quoi on reprend le contrôle de la ville de Marseille pour rassurer les Français.
Et cette tension entre les jeunes et les CRS et la police.
Déjà là-dessus, c'est pour moi une opération de communication par rapport aux JO, par rapport aussi aux élections européennes qui arrivent. Et en plus, c'est le président de la République qui y va lui-même. C'est pas Gérald Darmanin.
Et donc
le président de la République. Ouais.
Il prend toute la lumière.
C'est-à-dire en fait, il se mue en premier flic de France pour prendre toute cette lumière et pour donner l'impression qu'effectivement il reprend le contrôle de la ville de Marseille
quand même, pour lutter contre le trafic de drogue.
Et quand tu regardes, les chiffres qui sont annoncés depuis lundi, effectivement, c'est maigre comparé par rapport à tout ce qu'on sait qui circule à Marseille. Bon, laissons encore les policiers agir. Maintenant, effectivement, sur l'altercation qu'il y a eu entre guillemets entre le président et la dame qui l'a interpellé dans la rue, ben elle a raison. Je veux dire, une opération qui est lancée au moment où les enfants sortent de l'école, c'est extrêmement dangereux, surtout quand on sait que parfois il y a des trafiquants eux-mêmes qui règlent des comptes à Marseille au moment des sorties des classes. Donc effectivement, c'est totalement, ça aurait pu, en général, les opérations, c'est tôt le matin, etc. Voilà, vous savez comment ça se passe. Mais l'échange, il traduit aussi autre chose. Non seulement la tension qui peut exister entre la police et les jeunes, ça on le sait, ça dure depuis des années. Je dirais même que parfois, ça a servi de variable d'ajustement au moment de certaines élections pour dresser le portrait mauvais des jeunes de quartier. Alors même que c'est vrai qu'il y a des grands délinquants dans les quartiers, hein, jeter le discrédit sur tous les quartiers, c'est pas non plus une façon aussi de travailler à une nouvelle génération de jeunes qui ne vont pas basculer dans la violence ou dans la délinquance, mais qu'on va réussir plutôt à sortir de cette influence au gangstérisme, de cette injonction, de cette volonté aussi de ressembler aux gangsters américains. Moi-même, j'étais un jeune de quartier, moi-même, j'étais dans ces influences-là et je m'en suis sorti par rapport à un socle familial quand même prépondérant. Donc c'est ça, mais il y a aussi la tension entre le politique que représente Emmanuel Macron et la population en elle-même. Comment ça se fait que le président n'arrive pas à se faire comprendre de cette dame qui s'explique en des termes simples, en fait, c'est une mère de famille, c'est le cri du cœur qui s'exprime, en fait. Et je trouve que la réponse est un petit peu trop...
Parce qu'il est hors sol.
C'est un peu trop une réponse d'institutionnel, quoi. Ouais. Voilà.
Karim Alouache, justement, l'échange police-jeune, les tensions, et puis ce déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille.
Alors, sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, bien sûr, il faut tous avoir en tête qu'il y a les JO qui arrivent, que Marseille est classée comme l'une des villes d'Europe les plus dangereuses, et qu'il faut redorer le blason et l'image de certaines grandes villes. Hein. Il n'y aura pas que Marseille, hein. Il y a Grenoble, il y en aura d'autres, etc. Et on sait tous que c'est un coup de com', c'est-à-dire que ça ne nous surprend même plus, en réalité, et ça n'a pas d'impact, en vérité. Personne n'y croit. La deuxième chose que je voulais dire, il ne faut pas réduire le problème des banlieues à la police.
Bien sûr. Ouais.
Parce que personne ne mesure l'économie parallèle qui s'est développée en 30 ans dans les quartiers avec les stupéfiants. C'est une véritable économie avec des ramifications, avec des soldats. Et quand vous avez des gamins qui vont gagner, qui vont payer les loyers avec l'argent de la drogue et que les bailleurs sociaux, vous constatez les chiffres, les impayés ont chuté drastiquement dans ces quartiers, il faut vous poser les vraies questions. Ce qu'a dit la dame est très intéressant. Les écoles sont dans les cités. C'est des ghettos. Moi, j'ai quitté ma cité à 17 ans quand je suis rentré à l'université et parce qu'il n'y avait pas de sectorisation. Sinon, je serais allé dans une autre cité à Saint-Denis et j'aurais jamais quitté ces ghettos. Là-dessus, il faut faire un vrai travail. Il faut sortir tout ça. Il faut repenser la cité. Il faut repenser. C'est pas normal que
l'Enrue a oublié Marseille, visiblement.
La cité dans laquelle j'ai grandi, en bas de la tour où vit toujours ma maman, en bas de la tour, il y a la maternelle. Je pourrais jeter des morceaux de pain aux gamins en bas. C'est fou quand vous voyez tout ce qui gravite autour. Je me souviens à une époque, on a sorti les gardiennes d'immeubles, les fameuses gardiennes d'immeubles, qui étaient extrêmement importantes, en fait, pour la vie de la cité, quoi qu'on en dise. Et on avait une bonne image.
Les véritables acteurs.
Mais c'est vrai. Et pourquoi on a sorti toutes ces gardiennes d'immeubles? Je vais vous dire, il y avait une raison. C'était de récupérer massivement des logements parce qu'ils avaient un logement de fonction, il vivait dans la cité.
Non, c'est pour faire des économies.
En termes de politique, c'est tout.
Coup, hein. C'est une histoire de coût. Mais la délinquance, ça coûte plus cher.
Et le trafic de stupéfiants, ça coûte beaucoup plus cher.
Les concierges, elles n'étaient pas en 1942 non plus.
Non, mais il fallait maintenir cette action.
Comme les gardiens dans les écoles, il fallait maintenir.
Ce sont des
règles. Mais comme le commissariat à la Castellane, il fallait le maintenir.
Je le redis, c'est pas le problème, les difficultés des quartiers, c'est pas la police. C'est ce qui s'y passe. Et maintenant il faut y travailler fortement, dans la durée, je pense qu'il faut tout remettre à plat, à un moment donné,
que ce soit par rapport à l'éducation nationale, que ce soit par rapport à la présence de la police dans les quartiers, que ce soit par rapport aussi au rôle, parce que je pense qu'il faut davantage impliquer les habitants eux-mêmes des quartiers, en fait, quoi, que ce soit les mamans,
et écouter les élus locaux aussi,
les élus locaux
qui sont pas écoutés,
évidemment. Moi j'en sais quelque chose, parce que la cité qu'il y a derrière chez moi, les jeunes, on est régulièrement là à discuter des heures et des heures. Il y en a que je coach, etc. C'est-à-dire, il faut aussi plus de spontanéité.
Il y a eu des milliards qui ont été déversés à Marseille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est parti où l'argent? Il y a eu des milliards. Macron, il y a 3-4 ans.
C'était uniquement sur le renforcement de la police, mais pas sur le social.
Non, mais le problème,
c'est de la police.
Non, mais tu l'as dit tout à l'heure.
Mais par contre, après, c'est vrai que les moyens de la police à Marseille étaient très limités.
Non, mais la question, quand on parle des quartiers, on parle de quoi? On parle. Sécurité. Mais le problème, c'est pas que ça. C'est ça, mais c'est pas que ça. C'est l'éducation, c'est l'économie, c'est l'emploi, c'est la culture, voilà, bien évidemment. Sûr. C'est tout un
les
ensemble.
Services.
Et le problème, c'est comme les on travaille
publics.
Que sur ce volet-là. Et c'est pour ça que, beaucoup, malheureusement, je termine, malheureusement, beaucoup s'en prennent toujours à la police. Parce que malheureusement, il y a de moins en moins de services publics dans les quartiers. C'est-à-dire qu'ils voient que la police, et ben à un moment donné, il y a une frustration. C'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut qu'il y a plus de services publics dans ces quartiers. Il faut qu'on travaille. J'ai vu, moi, des témoignages dans l'avenue de Macron où il y a beaucoup de jeunes. Ils lui posaient la question de quoi? De l'emploi, de l'éducation, etc. Ils n'ont parlé plein de... Et ces questions-là, il n'a pas répondu. Il a botté en touche, il a raconté quelques histoires. Il n'a pas dit, comme il avait dit il y a longtemps, traverse la rue et tu trouveras un emploi, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, l'État, il faut qu'il crée les conditions.
Non, mais attends, je voudrais juste répondre.
Voilà,
c'est facile de dire qu'il faut du service public. Il y a des maires dans nos villes. Les maires n'ont qu'à eux-mêmes déjà commencé à mettre du service dans ces quartiers-là. Or, c'est tout l'inverse qui se passe. Ils ont sorti toutes les mairies annexes, etc., sous prétexte de dire « Oui, mais bon, on va pas continuer à faire le ghetto. » La réalité, c'est l'économie. Et dans le service public, il devrait pas y avoir de notion d'économie. Le service public, c'est service. D'accord? Et ça doit arriver. La deuxième chose, il faut proposer une alternative. Il faut arrêter de dire « On va jouer au foot. » Jouer au foot, ça fait pas ta vie. Ça te donne pas à bouffer. Ça paye pas tes loyers. Et ça éduque pas tes enfants. Et en plus, ça propose pas de projet professionnel. Il faut proposer une alternative au trafic. Il faut redonner de la crédibilité à l'école.
Il faut, mais c'est quoi l'alternative au trafic?
L'alternative, effectivement, c'est de remettre de l'investissement pédagogique dans l'école, de refaire nos écoles. Vous avez vu la tête des écoles? Moi, je parle de la ville où je vis et de la Seine-Saint-Denis en général. Allez dans les lycées, vous avez envie de pleurer. Pas de chauffage, de l'eau. Allez dans les écoles. Moi,
j'habite
pas dans un quartier difficile.
Mais Karim,
vous avez
ça, c'est
envie
pas
de
l'état.
Pleurer.
C'est pas
l'État,
c'est la région.
Il y a la région, il y a le département.
Non, le département, c'est les collèges.
Et la municipalité, c'est les écoles élémentaires. Il faut reprendre. Vous avez raison. Rudy a raison. Il faut reprendre le
collège, effectivement,
dans sa globalité.
C'est les départements.
Et il faut faire la démonstration.
Et les lycées, c'est la région.
Voilà.
Maintenant, les écoles, c'est entre
c'est
les mains,
solution.
Normalement, de l'éducation nationale. Sauf pour les zones périscolaires, où, effectivement, c'est la mairie qui gère tout ce qui est zone périscolaire. Mais, par exemple, sur le bâti des écoles, l'éducation nationale, enfin, le rectorat, mais aussi les mairies peuvent jouer un rôle. Moi, je sais que dans ma ville, on rénove régulièrement, en fait, les écoles municipales.
On marque une pause.
Mais quand vous avez
vous
avez des baisses de dotation, on est obligé de chercher des ronds partout.
On marque une pause, s'il vous plaît, et on se retrouve tout de suite après, parce que je voudrais qu'on parle du tweet de Louis Boyard. Très intéressant, c'est pour ça que j'ai laissé volontairement, évidemment, traîner le sujet. On parle des réalités des victimes de violences policières, ils nous accusent de défendre les racailles. Je n'accepterai jamais que l'on insulte les habitants des quartiers populaires. Il tape fort sur les policiers, ça c'est Louis Boyard. Et il parle aussi de racisme. On reviendra sur ces sujets. Voilà. À quoi joue Louis Boyard, le député Louis Boyard. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec Farid Aïd, avec Augustin Vargue, avec Rudy Kazi et enfin Karim Aloche. Farid Aïd, justement, je voudrais qu'on vienne sur les propos et les tweets de Louis Boyard sur notamment la déclaration et les propos qui ont été tenus lors des émeutes à la Courneuve. Il a tapé fort sur la police et il dit qu'il y a une réalité, les victimes de violences policières, il nous accuse de défendre les racailles, je n'accepte, j'aurais jamais que l'on insulte les habitants des quartiers populaires, bref, il dit, ils ont les mêmes droits et en même temps, il donne un coup très très fort à la police, il dit, oui, en incitant presque, hein, il laisse inciter que les émeutes, ben, c'est bien et il cautionne un peu les émeutes, c'est ce qu'il laisse entendre en tout cas. Farid Aït.
Moi, je suis élu de Pierrefitte, de Saint-Denis et j'y suis allé, moi, à la Courneuve comme j'y suis. Je vais partout quand il y a des événements, etc. Et moi, j'ai aimé l'intervention de Gilles Poux, le maire de la Courneuve, qui dit que la famille veut qu'on donne la vérité, que la vérité soit faite par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Et qu'elle ne veut en aucun cas des violences, des émeutes, etc. Et ça, je trouve que c'est important. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il y a un rassemblement à la Courneuve. Moi, je suis pas dans cette idée que d'opposer les uns et les autres. C'est bon. Je pense que on en a marre de opposer la police avec les jeunes, de les riches contre les pauvres, etc. Je pense qu'il faut qu'on fasse peine commune et je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble pour faire en sorte qu'il y a des réalités. Si par exemple il y a une enquête, l'enquête dira si le policier est coupable ou pas, etc. Mais en même temps, moi je dis aux jeunes, c'est votre avenir qui est important. Et votre avenir, c'est quoi? C'est pour moi, c'est l'école, c'est travailler, c'est ça l'avenir. Et je trouve que ça c'est important. C'est pour ça que les tweets des uns et des autres. Voilà, moi je respecte, mais en tout cas moi je suis pas dans cet état d'esprit là. Moi je suis plutôt dans un état d'esprit que il faut construire ensemble.
Donc Louis Boyard s'en fout des enquêtes.
Est-ce que c'est responsable de Louis Boyard de tweeter ce
C'est irresponsable.
C'est irresponsable.
C'est la surenchère du pire à chaque fois Louis Boyard. C'est le coup d'éclat permanent. Il a besoin de se faire connaître, de dualiser les débats, d'opposer les jeunes avec à la police. Je veux dire, à un moment donné, arrêtons quoi. Arrêtons, c'est quelqu'un qui est dangereux. Ce monsieur est dangereux dans le débat public.
Moi, je vous dirais même que Louis Boyard, en fait, il tweete comme un enfant. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire il y a pas une recherche en fait de responsabilité derrière. C'est son fonds de commerce en fait. Et je dirais même que la France insoumise de façon globale est dans cette façon de faire. Donc il y a comme une espèce de course aussi à l'échalote à qui fera le tweet le plus incendiaire, voilà. Etc. Et donc lui il s'illustre très bien là-dessus. Et même je suis même triste pour lui parce que je trouve que quand il était dans son syndicat de lycéens, etc. Franchement, je le trouvais hyper intelligent, hyper vif d'esprit, etc. Et depuis qu'il est député. Il y a une transformation.
Il
est hyper clivant, etc. Voilà. Ouais. Et je trouve ça déplorable. Bon. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, voilà. Moi, je connais assez bien la Courneuve. J'ai eu de la famille. Je connais quelques élus là-bas. J'ai passé beaucoup de temps quand j'y étais jeune. Donc, c'est triste, effectivement, de voir que malheureusement, par rapport à ce qui s'est passé l'embrasement des quartiers l'année dernière, on a toujours pas pris la mesure de la situation. Et par rapport effectivement à l'enquête de police qui doit être menée, c'est important qu'elle soit menée, mais surtout je pense quel est le discours qu'on tient à cette jeunesse-là. Et même aux policiers qui éventuellement se comportent pas selon la déontologie policière. Il doit y avoir plus de formation pour les policiers, notamment qui interviennent dans les quartiers. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des policiers, on en reçoit ici, hein, qui le disent, etc. Et je trouve que pour le moment, peut-être un problème chasse un autre. Une fois qu'il y a eu les émeutes de quartier, on a voulu bosser sur autre chose, et puis on a remis un petit peu la poussière sous le tapis. Mais c'est manquer de courage par rapport au risque d'embrasement à venir. Et je veux dire, le pays ne s'embrase pas que dans les quartiers. On a vu les émeutes par rapport, la loi, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu ensuite la loi retraite. Le pays peut s'embraser de différentes manières et je trouve que le discours qui est tenu à l'endroit de ces différentes de populations ou soit ne règle absolument pas le problème. On veut rien régler.
Il propose pas de solution, Louis Boyard, en plus.
Que ce soit Louis Boyard ou même le pouvoir.
Il y a une chose qui me dérange. D'abord, ce député qui commence par faire quelque chose dans la vie avant de faire de la com politique et du buzz pour faire une carrière politique. Lui, c'est l'exemple type de ce que les gens ne veulent plus voir en politique. Des gens qui n'ont jamais travaillé. Il est un modèle en rien. Il a arrêté ses études. Il a utilisé un syndicat étudiant pour se faire remarquer, sortir de l'ombre et s'engager. Il a rien. Il a rien fait. C'est un gars qui a rien fait. C'est un gars qui a rien fait et qui utilise ce qui se passe. Moi, je suis désolé. Tu prends des pays. Avant d'entrer en politique, t'as fait quelque chose de ta vie et t'as fait quelque chose dans la vie.
Non, mais il a été élu.
Je suis pas d'accord.
Il a été élu sous une étiquette.
Légitime.
La deuxième chose, c'est que j'en ai marre de ces gens qui utilisent. Et je dis aux gens des quartiers, arrêtez de vous faire utiliser, qui mettent le feu aux poudres pour faire péter les trucs et dire regardez, c'est la misère, c'est marrant.
Ils communautarisent.
C'est toujours ceux qui
ne
vous ressemblent
les
pas qui savent ce qui est bon pour vous. Ça, c'est insupportable. La troisième chose, il ne faut pas que les quartiers s'embrasent, parce que quand les quartiers s'embrasent, c'est les outils des quartiers qu'on brûle, c'est les écoles, c'est les magasins,
émeutes,
c'est
les dernières émeutes.
On fait du mal aux gens qui y vivent. Et ça, c'est terrible. Et le dernier message, quand on parle de la police, moi, je vous en supplie, quand vous faites contrôler, quelle que soit la manière, ne fuyez pas, parce que quand vous mourrez, c'est une catastrophe pour vos parents, c'est une catastrophe pour la famille, et ça ne règle rien. Ça fait perdre une personne, et c'est tout, et on vous oubliera. On va se battre contre le racisme, on va se battre contre les inégalités, mais si vous mourrez, on ne peut pas vous ramener.
D'ailleurs, Louis Boyard dit que la police est raciste.
Donc Louis Boyard est responsable.
Faut arrêter. Police raciste, tout ça, faut arrêter.
Faut arrêter,
à un moment donné. Moi, ce que je souhaitais, et par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière dans les quartiers, moi ce que je souhaitais, c'était un véritable état général des quartiers. C'est-à-dire en fait qu'on fasse s'asseoir aussi les élus qui viennent de quartiers. Parce que c'est bien d'avoir des grandes associations d'élus, parce que les maires ils sont dans le cambouis, etc. Les mains dans le cambouis, il n'y a pas de problème. Mais dans tous ces élus-là, il y a des élus qui ont cette spécificité de venir de quartiers et qui ont, même tout en étant élus, qui conservent en fait, vous savez, cette relation avec certains jeunes de quartier qui ont la maîtrise des codes. À un moment donné, il faut mettre sur la table, faut sortir de l'élitisme en fait, faut mettre autour de la table tous ces acteurs qui ont une capacité vraiment à peser dans la résolution des problèmes.
Oui, mais
est-ce qu'on veut le faire?
Oui, mais c'est quand? Oui, mais c'est
quand?
C'est ça. C'est quand? Ça veut dire que on passe d'émeute à émeute, on passe de problématique à problématique. Mais à un moment donné, excuse-moi, à un moment donné, on se dit pas, à un moment donné, il faut faire le bilan de ce qui se passe, par exemple, sur les questions de l'ANRU. Ça marche ou ça marche pas? Il faut qu'on fasse un bilan pour voir, excuse-moi.
Mais
pour
même
voir
une étude d'impact,
bien sûr.
Au préalable,
exactement.
Et ensuite un
bien
bilan
sûr,
après.
Pour voir, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Comment? Pourquoi?
Mais en fait, après, l'ANRU, ça a fonctionné,
juste pour dire qu'il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan sur les actions qu'on mène et pour essayer d'en tirer les conséquences et essayer d'améliorer les choses. C'est un peu comme l'éducation. Excuse-moi, j'en termine par là. Pour l'éducation, par exemple, nous, à Pierrefitte, Stein, c'est les deux villes où il y a le plus de contractuels en Seine-Saint-Denis. Déjà, la Seine-Saint-Denis, c'est pas un département où il y a beaucoup d'expérience. Mais là, ça veut dire que on met des enseignants qui ont été formés.
On va te répondre là-dessus. Les acteurs locaux, ils ont les moyens d'agir. Moi, j'agis. Moi, j'ai choisi de rester vivre en Seine-Saint-Denis pour essayer, à mon humble niveau, être un modèle. Et je suis élu local pour essayer de combattre tout cette clientélisme, cette politique de merde qui s'est développée pendant 20 ans. Un maire, il a les moyens d'agir. Un maire, il peut prendre des exemples de la ville, les mettre en valeur, les faire intervenir dans les écoles. Il peut devenir un interlocuteur. Il faut arrêter cette politique du fatalisme. Et bien, il faut démarrer par quelque chose. Et la première chose, c'est les interventions. Et ce sont les modèles.
C'est ça l'objectif des états généraux.
On voit bien que
c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, que ce soit des maires, que ce soit des... Mais par exemple, même les associations de maires de quartier, il y en a plein. Ce qu'on a vu pour l'année dernière, qui faisait des rondes.
Mais en fait,
le ras-le-bol de Karim, il est basé en fait sur l'inactivité de certains maires ou bien sur la politisation des crises de certains maires.
Et pas beaucoup de bondis.
Je peux le comprendre.
Non, c'est pas que bondis. Non. Mais c'est pas rigolo. Faut pas rire. Quand tu dis on fait un bilan de la rue, il y a pas besoin de faire un bilan. Va dans les cités, tu vois que c'est une catastrophe. Il faut juste avoir ses yeux pour regarder.
Tu fais quoi alors?
Et ben, il faut arrêter. Où est pâté tout ce pognon là?
les associations féminines. Non, non, mais attends. Mais fais une enquête. Moi, je suis en colère. Pourquoi? Parce que écoute, j'ai été élu 6 ans d'opposition et je suis toujours élu d'opposition. Bah, alors oui, que le bord a changé dans ma ville. Pourquoi? Parce que ce soit gauche-droite, c'est toujours la même merde. Les associations féminines. Et toi, tu feras mieux pour amener des voix. Il faut y mettre fin aussi.
Toi, tu feras mieux quand ils seront. Calmons-nous, effectivement.
À la Cour des comptes,
Je sais que le sujet est important.
Présente-toi avec tête de liste.
Et effectivement, arrête de parler, sois on pas est d'accord. Attendez, s'il vous plaît, on se calme.
Sans être un père.
Le Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Parce que c'est vrai, parce qu'après ça devient le brouhaha, vous savez. Le problème, c'est pas ça. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est pas ça. C'est que l'auditeur, chez lui, il n'entend rien. Bonjour, professeur docteur Majid Seoussine. Comment ça va?
Ça va très bien. Dites-moi, le ramadan, ça excite les...
Vous avez vu, hein, le ramadan, hein, c'est exactement ça. Exactement.
Il a déjà la
dalle. Allez, on est déjà en retard. Je vous lance. Effectivement, on vient même aussi d'aller vous rendre compte. Toute la technique est venue nous voir pour nous dire « Mais attendez, on n'entend rien. » Mais il a raison. Samuel, il est venu nous alerter. On n'entend rien. Les auditeurs, je vous promets, ils n'entendent rien.
Faut qu'on parle de lui.
Vraiment, Samuel, on n'entend rien. Je vous lance, mon cher Majid Seoussine, le docteur. Allez-y.
Je suis à votre disposition. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, et de surcroît, elle peut rapporter gros. Je ne dis pas ça pour moi, qui en tant que médecin gagne des fortunes, sans doute moins qu'un journaliste comme vous, Adil Farkan, je vous rassure, mais tout de même, la santé, ça rapporte tellement d'argent que Ramsay, qui a racheté toutes nos cliniques, est désormais en train de s'emparer de nos centres de santé afin de servir des dividendes généreux à ses actionnaires australiens grâce à notre sécu qui est bien malade et bien française. Ça peut encore apporter plus si on prend le contrôle d'un gisement de données, des données de santé que nous générons par nos consultations, nos hospitalisations, nos examens, c'est ce qu'on appelle le big data. Cela représente une fortune dont on serait très friand, les laboratoires, les assureurs, les hackers, etc. etc. Cela nécessite un stockage sécurisé et ne voilà-t-il pas que Microsoft, une société américaine, a récolté le marché de stockage. Des associations désintéressées et des concurrents sans doute moins désintéressés ont formulé un recours devant le Conseil d'État pour casser le marché. Par-delà ces affaires d'argent, la vraie question est celle de la souveraineté. Comment peut-on confier des données aussi sensibles à une puissance étrangère? Comment se fait-il que personne...
Bonne question, les enfants, effectivement.
Comment se fait-il que le président de la République, le ministre de l'économie, ne pique mot sur le sujet? C'est bien beau de refabriquer du paracétamol en France, comme on nous l'annonce cette semaine, mais ne pas protéger ses données de santé, c'est pire que de la négligence, c'est de l'irresponsabilité. La santé, ça peut rapporter gros, disais-je, mais pas en travaillant à l'hôpital comme médecin. C'est bien ce dont a dû se rendre compte notre ancien ministre de la Santé, neurologue de profession, qui n'a pas dû exercer depuis longtemps après avoir été au cabinet de Marisol Touraine, dans l'équipe de campagne de Macron, puis ministre et encore ministre et désormais député, qui s'était dit déclaré avoir hâte de remettre sa blouse, chose qu'il vient de faire, mais pas à l'hôpital public, à la clinique des Champs-Élysées, pour faire des injections de Botox à la bourgeoise du 7e à la fraîcheur Terli, et je ne parle pas de Rachida Dati, ou des injections de collagène dans la fesse flasque de la milliardaire Qatari, pour que son mari ne couche pas trop souvent avec la bonne non-consentante. Et c'est pourtant lui qui nous avait expliqué ce que c'était si bien de travailler à l'hôpital public, qu'il avait fait ce qu'il fallait pour y améliorer les conditions de travail et revaloriser les personnels. Médiquer, curater, ipsum, comme disait le Nouveau Testament, médecin, soigne-toi toi-même. Pour finir, je voulais et je tenais absolument à féliciter Vladimir Poutine, réélu sans aucune discussion, terrassant la concurrence, soit à coup de poison ou d'enfermement ou d'élections arrangées. Il a même réussi à battre le score d'Emmanuel Macron de 2017, 66%. Emmanuel Macron sait désormais ce qu'il doit faire s'il veut rester en 2027. Mettre Bardella en prison, empoisonner Marine, et envahir la Belgique.
Merci, mon cher docteur Majid Seoussine. Bravo pour ce billet d'humeur. Je vous dis à mercredi prochain, sans faute.
Avec joie.
Merci, bravo.
Dans la paix et dans le calme.
Dans la paix et dans le calme. On est d'accord. Merci en tout cas pour ces deux mots. Effectivement. Allez, allons-y. On va rendre l'antenne, vous savez, là tout de suite, on rend l'antenne, messieurs. Merci, Augustin.
Merci à tout le monde.
Merci.
C'est un débat calme et discret.
Merci et toutes mes excuses si je me suis un peu énervé, mais je suis vraiment passionné. J'en ai après personne, mais c'est à la hauteur du danger qui est sous-jacent. Ouais,
merci à tous pour votre écoute. Merci pour l'invitation, Adil.
Désolé pour les auditeurs, c'est vrai que le brouhaha.
Emmanuel Macron, etc.
Merci à Faudil. Vanessa, vous retrouve tout à l'heure pour les petites annonces. Ensuite, tous les programmes avec Philippe ce soir. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.